Alors, de l'obscène ou hors scène, deux scènes impossibles chez Georges Bataille et Hubert Aquin. J'ai choisi, pour illustrer les rapports que l'on peut établir entre l'œuvre de Bataille et celle d'Aquin, de me concentrer sur deux scènes particulièrement pénibles à visionner, tirées du premier récit érotique de Bataille, Soir de l'œil, et du dernier roman d'Hubert Aquin, Neige noire. Je reviendrai par la suite sur les raisons qui me poussent à employer le verbe « visionner » au lieu de « voir » ou « se représenter » au sujet de ces deux scènes. Dans les deux cas, la scène décrite est difficile à supporter, voire insupportable, pour le lecteur, mais peut-être plus encore pour la lectrice, et présente des traits caractéristiques communément imputés aux deux auteurs, cruauté, sadisme, érotisme mortifère, violence, etc. Au-delà de cette apparente convergence, je veux insister sur ce qui singularise la scène impossible dans chacun de ces textes. Ce qui varie dans sa mise en scène ou ce qui distingue chaque scène sur le plan à la fois du sens et de la forme. Car s'il y a transgression de part et d'autre, transgression de l'interdit incarné par la loi, avec la majuscule, bien plus que par l'ordre moral fixé par les lois, avec la minuscule, cette transgression ne répond pas tout à fait, me semble-t-il, à la même logique. À la lettre, ce que dévoile Bataille dans son récit auto-analytique, c'est la logique même du fantasme qui a inspiré Lacan à lui consacrer beaucoup plus tard un séminaire spécifique. Tandis que ce que révèle Aquin dans son roman cinématographique, c'est une logique de la perversion qui gravite autour du tabou de l'inceste. On en a beaucoup parlé déjà ce matin, mais je vais y revenir. Au sens courant du terme, ces deux scènes sont obscènes, c'est-à-dire indécentes, licencieuses ou même parfois pornographiques, mais j'avancerai que seule la scène finale du récit de Bataille est obscène avec le trait d'union, avec le tiret, en insistant sur la dimension scopique introduite dans le concept par cette graphie, tandis que celle insérée à brûle-pourpoint dans le roman d'Aquin est littéralement hors scène ou hors cadre, au sens où l'entend Jean-Luc Godard, je ne savais pas qu'il était pour parler de Godard ce matin, au sens où l'entend Jean-Luc Godard à propos de sa technique cinématographique, en particulier dans les films autour de « Je vous salue Marie », prénom Carmen, et Godard insiste beaucoup que la scène principale de ces films est toujours hors cadre ou décadrée par rapport à la mise en scène. Alors, ma première partie, je l'ai intitulée une révélation aveuglante, et c'est évidemment la scène finale de l'histoire de l'œil. Avant d'aborder la scène finale du récit de Bataille, il ne m'apparaît pas déplacé ici de souligner sa dette en versade, on en a parlé un petit peu ce matin, dans la composition de son premier roman érotique. Composé de deux parties, Histoire de l'œil de Bataille, même si ce n'est pas indiqué comme tel dans le texte, il y a quand même deux parties, en France puis ensuite en Espagne, Histoire de l'œil de Bataille rappelle la structure de la philosophie dans le boudoir de Sade, mais sans l'intermède du pamphlet, bien sûr. Comme dans l'écrit sadien, la première partie est plus légère dans le ton que la deuxième, toute proportion gardée, bien sûr. Et dans les deux cas, le texte culmine par une scène horrible. À l'outrage fait à la mère chez Sade, correspond chez Bataille l'outrage fait au cadavre du prêtre. Deux incarnations de la morale établie qui freinent le désir du libertin. Si Simone peut être comparée à Madame de Saint-Ange, ce Edmond, ou Edmond, rappelle davantage Dolmancé, tandis que le narrateur se trouve en quelque sorte dans la position d'Eugénie qui subit aux mains des deux autres son éducation libertine avant de l'embrasser corps et âme. Il faut dire que chez Bataille, ça se fait très vite. C'est l'éducation de... Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, c'est beaucoup plus Simone et Dolmancé qui sont des initiateurs et le narrateur embarque dans le fantasme. Mais ce n'est pas lui qui initie généralement. Même la scène où Marcel s'enferme pour jouir en solitaire dans l'armoire normande n'est pas sans rappeler l'épisode où Dolmancé et Augustin se retirent dans un cabinet privé afin de se livrer en secret à des turpitudes inouïes. On n'assiste pas à cette scène. On sait qu'il se passe des choses horribles. Et là, Sade joue évidemment sous le désir du lecteur comme voyeur, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement dans ce cabinet. Enfin, le couple féminin Simone-Marcel rappelle évidemment Juliette et Justine dans les textes éponymes du Divin Marquis. Le vice versus la vertu, le bourreau et la victime, bien que cette dernière soit consentante. L'impression personnelle que m'avait laissée ma première lecture de l'Histoire de l'œil était celle d'un condensé très chargé et pour ainsi dire un accéléré de la philosophie dans le boudoir, comme si Bataille avait voulu émuler, c'est-à-dire dépasser tout en limitant, son modèle, en le transposant dans une forme narrative, puisqu'évidemment, dans le cas de Sade, c'est une forme pseudo-théâtrale, dialoguée, et à l'époque contemporaine. Je rappelle que le premier roman érotique de Georges Bataille, paru sous le pseudonyme de Lord Hawke en 1928, mais si on faisait Hawke, ça voudrait dire en allemand aussi, est à la fois une tentative d'auto-analyse entreprise avec la complicité de son psychanalyste, Adrien Borel, hein, c'est même lui qui l'a incité à écrire ce récit, comme en témoigne le document intitulé « Réminiscence » que Bataille a inséré à la fin de son récit, et une illustration anticipée du séminaire que Jacques Lacan consacrait à la logique du fantasme en 1966-67. Dans ce document autobiographique, Bataille relate les circonstances et les souvenirs de son enfance qui l'ont mené à rédiger son texte thérapeutique, évidemment, il n'y a pas question de guérir de quoi que ce soit, mais je le mets en guillemets, et retrace, par la technique éprouvée en psychanalyse de l'association d'idées, les différents liens qui lui sont venus à l'esprit pendant la conception de son roman, de manière à recréer partiellement, et je dis bien partiellement, la chaîne des signifiants qui préside à la logique du fantasme qu'il met en scène dans le texte et qui trouve dans la métaphore de l'œil son signifiant majeur. J'avais écrit au début « maître » signifiant « maître », mais ce n'est pas ça. Du moins en apparence, car je tenterai de montrer en quoi ce signifiant agit en fait comme un trompe-l'œil qui en cache au moins un autre. Le texte prend sa source dans la figure du père syphilitique et aveugle, on en a parlé ce matin aussi, puis paralysé, que Bataille dit avoir adoré enfant avant que l'adoration ne se transforme à la puberté en aversion, ce qui, dans un premier temps, place le récit sous le signe du complexe d'Édipe. Ne pouvant se soulager normalement, le père faisait ses besoins à partir de son fauteuil, urinant dans un récipient devant son fils, les yeux révulsés au ciel et avec l'expression extatique d'un rire absent. C'est comme ça que Bataille le décrit dans Réminiscence. C'est ainsi qu'il apparaissait, tel un mystique idiot, béat, au futur écrivain. La scène vécue, à la fois obscène, au sens courant du terme, et comique, dans sa représentation théâtralisée qu'évoque Bataille, restera gravée dans sa mémoire et suggérera la plupart des éléments qui entreront dans la chaîne signifiante du fantasme mis en scène par l'écriture de l'histoire de l'œil. D'abord l'œil, du père aveugle mais voyant, l'œuf, comparable au blanc de l'œil révulsé, le testicule du taureau dans la scène de la corrida, dont Bataille découvre, par les soins attentifs de son analyste, qui est vraiment un complice pervers là-dedans, la forme ovoïde et la couleur blanchâtre qui l'apparente au globe oculaire, etc. Je pense que c'est même le même psychanalyste qui lui a montré la fameuse gravure du Chinois torturé en extase qui a tellement bouleversé Bataille. À ces objets partiels du désir, et on pourrait se demander si ce sont des objets petits a, à la manière dont Lacan parle, c'est-à-dire objets cause de désir, à ces objets partiels du désir qui se succèdent et se substituent l'un l'autre dans la chaîne signifiante du texte, par procédé métonymique et métaphorique, selon ce que Lacan appelle l'insistance de la lettre dans les écrits, il faut ajouter les sécrétions qui leur sont associées. Il y a tous ces objets-là qui se défilent dans le texte, mais il y a aussi le lait, l'urine, la cyprine, le sang, le sperme, etc. Ils sont toujours associés à ces différents objets. Bref, tout un réseau de dénotations et de connotations, de métaphores et de métonymies, d'objets réels et de symboles fétiches, se met progressivement en place pour signifier ce qui, comme tel, se dérobe à la signification, mais qui sera tout de même figuré dans une scène on ne peut plus obscène, cette fois au sens fort du terme, c'est-à-dire immonde, voire impossible à visionner. C'est le sens que je prête au verbe ici, le verbe visionner, non pas celui d'examiner attentivement une séquence de film, sens que je vais plutôt évoquer dans ma lecture du passage d'Aquin tiré de Neige noire, mais celui de faire apparaître une image ou un texte sur un écran ou un autre support. C'est l'autre sens du mot visionner. Dans le cas de Bataille, il s'agit de faire voir une image non pas irreprésentable, parce qu'elle est représentée, mais de l'irreprésentable, une image impossible du réel, au sens lacanien du terme, par le truchement de médium, l'écriture, qui, elle, ne peut montrer que par représentation. C'est ça le paradoxe, en fait. Ce que j'ai omis de dire jusqu'à présent, c'est que les différents symboles rattachés au père, parce qu'ils viennent tous du père, l'œil réel ou métaphorique suggéré dans d'autres textes de Bataille par la fiction de l'œil pinéal, l'œuf par comparaison avec l'œil révulsé, le testicule du taureau par analogie, qui semble receler une signification phallique, transite sans cesse par le sexe de la femme, vulve, lèvres et cul, Bataille, dans ce texte-là, aime beaucoup le mot cul. C'est le plus joli mot de sexe entre lui, le narrateur, et Simone. Parce que le cul, c'est tout. Hein. C'est à la fois l'anus, le vagin, ce cloaque d'incertitude dont on est né, pour le dire avec Pascal. Et c'est tout ça que le mot cul évoque dans le texte. Donc, ça passe par le sexe de la femme, porteur du désir de l'homme, certes, mais aussi vecteur de son propre désir à elle. Ça, il faut quand même bien le voir. Le narrateur est fasciné par le sexe puissant de sa partenaire, Simone, qui gobe et casse les œufs, et par l'urine de leur complice, Marcel, laquelle préfigure déjà les larmes d'Eros, le dernier texte qu'on publié complet du vivant de Bataille, qu'il associe sans cesse à leurs jeux érotiques. C'est par le truchement du sexe béant de la femme, on en a parlé ce matin, que se révélera in extremis l'objet obscur de son désir, que chaque objet partiel ou objet petit a n'avait réussi qu'à découvrir imparfaitement, entre autres parce qu'il servait simultanément à masquer le sexe exhibé, comme la taie d'une cataracte recouvre un œil qui s'aveugle. J'essaie de rivaliser avec Nerval dans ton dernier vers doré. Comme un œil naissant couvert par sa paupière, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Si la scène culmine dans la divulgation du phallus, comme dans les mystères d'Éleusis, encore faut-il comprendre ce qu'il faut entendre par phallus dans le contexte pré-lacanien du texte de Bataille. Dans le texte fantasmatique de l'histoire de l'œil, aussi bien que dans le document autobiographique qui l'accompagne, la figure de la mère est occultée par celle du père. Ça, c'est très important dans ce texte-là en particulier. Le père réel de Bataille dans le document autobiographique, mais dans le récit qu'en fait Bataille, Sir Edmond, l'anglais richissime, et son double, le prêtre espagnol, dans le texte de fiction. Mais son sexe, plus précisément le sexe irreprésentable de la mère, parce que s'il y a un sexe qui est irreprésentable, c'est bien celui de sa propre mère, n'est-ce pas? Ancre le fantasme à chaque étape logique de son déploiement pour aboutir à la scène qu'il me faut maintenant rappeler. Après avoir ordonné à Sir Edmond l'énucléation du cadavre du prêtre dont elle a joui préalablement, Simone introduit l'œil, qu'elle assimile à un œuf, dans sa vulve. On a vu la scène ce matin, je la reprends. C'est devant ce spectacle immonde, là je rappelle que le mot revient trois fois dans le texte de Bataille dans ce chapitre-là, dans le dernier chapitre, et est de plus souligné par la paronymie avec le nom Edmond. Ce Edmond, immonde, c'est presque un anagramme, à la limite, au sens saussurien du terme, à la lettre obscène, puisqu'il se dresse sur la scène à laquelle fait face le voyeur, le narrateur reçoit la révélation tant attendue. Et on devine que c'était quelque chose le texte devait se terminer ainsi. Et là, je recite le passage. « Me levant, j'écartai les cuisses de Simone. Elle gisait étendue sur le côté. Je me trouvai alors en face de ce que, j'imagine, j'attendais depuis toujours, et là, cette étrange comparaison, comme une guillotine attend la tête à trancher. Mes yeux, me semblait-il, étaient érectiles à force d'horreur. Vous voyez comment les lapsus ont fini par toujours... Je vis dans la vulve velue de Simone, ça c'est un des plus beaux vers libres de la langue française, je vis dans la vulve velue de Simone le bleu de Marcel me regarder en pleurant des larmes d'urine. Ah, c'est tellement beau. Des traînées de foutre dans le poil fumant achevaient de donner cette vision au caractère de tristesse douloureuse. Alors, j'insiste beaucoup sur la tristesse douloureuse. Le narrateur soutient jusqu'au bout la vision insoutenable du sexe de la mère, représentée par la tête de Méduse dans l'essai éponyme que Freud consacre à cette figure ambivalente. C'est un très court texte de Freud, deux pages, mais absolument génial. Ça met le doigt sur la chose. Vision horrible en ce que ce sexe exhibé, mais qui aurait dû demeurer caché, désigne le lieu obscène de l'origine du sujet et celui hors scène de sa future disparition, tout en accomplissant son désir inconscient, dans la mesure où cette vision est proprement étiphalique. Je rappelle, mes yeux, me semblait-il, étaient érectiles à force d'horreur, et castratrice, comme une guillotine attend la tête à trancher. Il faut en conclure que la signification de cette scène concerne le phallus, comme signifiant maître de tous les autres signifiants enchaînés et mis en branle par le texte, excusez le jeu de mots facile, mais au sens où l'entend Lacan, d'ailleurs influencé ici par Bataille, en ce qu'il implique nécessairement les deux sexes. À savoir, qu'est-ce que c'est que le phallus en psychanalyse? À savoir ce que l'homme ne possède pas, sinon par intermittence, quand il est en érection, et ce que la femme n'est pas, sinon par procuration, par exemple quand elle porte un enfant. Alors, le phallus, c'est aussi bien ce qui met ensemble l'homme et la femme et les distingue. Appelé plus justement fascinus par Pascal Quignard, et je pense que ça vaudrait la peine de passer par Quignard ici, le phallos grec est ce qui réunit les deux sexes au sein même du malentendu qui les sépare de façon irrémédiable. Pour Bataille, il est aussi la part féminine maudite de Dieu, comme l'atteste un autre passage tiré cette fois de Mme Edvarda, qu'on a cité ce matin, où, après avoir exhibé son sexe aux yeux du narrateur, la prostituée lui dit « Tu vois, je suis Dieu ». Ce trait supplémentaire permet de compléter la chaîne des signifiants dans l'histoire de l'œil. Ça, c'est le cours que je donne toujours sur littérature et psychanalyse. L'œil, l'œuf, l'anus, le soleil, le testicule, Dieu. Supporté par le signifiant maître qui n'est pas en tant que tel représenté, puisqu'il est à la lettre irreprésentable, mais sans cesse signifié à travers chaque relais de sa mise en scène. Si elle est révélatrice, cette scène n'en constitue pas moins le point d'achoppement du texte de Bataille, dans la mesure où il s'arrête abruptement après cette révélation, vidé pour ainsi dire de sa substance ou de son énergie, et qu'il ne se poursuivra pas, après un répit salutaire, en dépit du plan qui annonçait une suite à l'histoire de l'œil. On peut d'ailleurs remercier Bataille de ne pas avoir écrit cette suite, car d'après les indications qu'il en a laissées, ce qu'on a dans le plan partiel, ça aurait pu donner un mauvais film pornographique genre « Ilsa loup DSS » ou « Olga, tigresse de Sibérie ». Heureusement, c'est resté au niveau d'un plan. Pour revenir à l'histoire de l'œil, le prix de la révélation à la fin du roman n'est pas tant l'aveuglement, puisque le sujet affronte et soutient la vision de ce qui le constitue en vérité comme sujet désirant, mais une forme d'impuissance. Il est condamné à regarder ce dont il ne peut plus jouir. Ce dont il ne peut pas jouir, mais ne peut plus jouir. À laquelle il ne peut se soustraire, mais avec laquelle il devra désormais composer. C'est à ce point seulement de jonction, je dirais, entre l'imaginaire, le symbolique et le réel, pour moi cette scène-là, c'est vraiment ça, que le texte de Bataille confine à la perversion, sans vraiment y succomber. C'est-à-dire que la perversion, elle est là, mais le texte s'arrête là-dessus. Car il y a un autre signifiant encore qui se profile derrière la chaîne des signifiants et qui fait signe à autre chose que le phallus, Dieu ou le réel, à moins d'en faire leur équivalent symbolique. Ce signifiant est suggéré par le titre même du dernier chapitre du récit de Bataille, dans lequel se trouve cette image finale, « Les pattes de mouche », drôle de titre pour le chapitre, où il est bien question d'une mouche qui se déplace doucement sur le globe vitreux du prêtre assassiné. Et c'est d'ailleurs l'apparition de cette mouche qui précipite dès sa sortie d'apparition, donc la scène finale du roman, mais sans référence explicite aux pattes de mouche dans le texte, seulement dans le titre. Ces dernières ne figurent nommément pas dans le titre du chapitre. Or, chez Bataille, et particulièrement dans ce récit fantasmatique, les mots ne sont jamais innocents. Chargés de sens, ils constituent des signifiants concrets qu'il faut lire à la fois au sens littéral et figuré. Presque tous ces mots-là sont à lire au moins aux deux niveaux. Et que sont donc des pattes de mouche au sens figuré, sinon une écriture fine, irrégulière, réputée difficile à lire? Celle-là même du manuscrit de l'Histoire de l'œil, telle qu'on peut la déchiffrer sur deux pages accompagnant l'édition du roman dans la collection Imaginaire chez Gallimard, que je n'ai pas apporté, qui avait deux pages, et on voit cette petite graphie très fine en pattes de mouche de Bataille, mais quand même assez lisible. Et par extension, donc, l'écriture comme ultime référent et support du texte. Ce qui constitue, en dernière analyse, la logique du fantasme n'est rien d'autre chez Bataille, cette fois, je dirais, plus près de Derrida que de Lacan, que l'écriture même. Donc ça, c'était ma section sur Bataille, je passe à Aquin. Et là, j'avais intitulé cette deuxième partie « Une révélation nébuleuse ». J'hésite entre nébuleuse ou suspecte. Je vais garder nébuleuse. Dans son dernier roman publié son vivant, Neige noire, Hubert Aquin insère à son tour une scène difficile à soutenir qui joue, en apparence, la même fonction que la scène finale de l'Histoire de l'œil. Pourtant, Aquin a confié dans une entrevue livrée à Yvon Boucher, là je reprends ce qu'on avait dit aussi, qu'il le questionnait au sujet des rapports de son œuvre avec celle de Bataille, qu'il n'avait pas subi l'influence de ce dernier, qu'il avait peu lu et que du reste, il le trouvait plutôt ennuyant, ce que tu avais dit ce matin. Si aucun ouvrage de Bataille ne figurait dans la bibliothèque personnelle d'Aquin à sa mort, il n'en reste pas moins qu'il avait lu l'érotisme, fait attester dans son journal, et qu'il a cité pas nécessairement l'érotisme, mais Bataille, à plusieurs reprises dans ses notes de cours et de lecture, comme en témoignent les itinéraires d'Hubert Aquin. Et ça, c'est une chose qu'on va aller vérifier exactement qu'est-ce qu'il a cité d'Aquin, de Bataille. Ce désaveu de la part d'Aquin peut nous sembler suspect. Pas d'influence directe, certes, mais sans aucun doute, du moins dans mon esprit, des affinités lectives, puis même je pense que ça va au-delà de ça maintenant. En fait, c'est une des choses que cette journée d'étude aura révélées. Il n'en demeure pas moins que la scène incluse en Neige noire, si elle rappelle certaines obsessions du narrateur d'Histoire de l'œil, se distingue nettement de la scène finale du récit bataillien, non seulement par sa mise en scène particulière, mais aussi quant à la place qu'elle occupe dans le roman aquinien. Je rappelle brièvement ce dont il s'agit. Nicolas Vanesse et sa femme Sylvie Dubuc se rendent seuls pour leur voyage de noces dans le Svalbard, en Norvège, où cette dernière connaîtra une fin tragique. Tombé dans un précipice du Spitsbergen, Nicolas allègue d'abord à Eva, l'amie norvégienne de Sylvie, puis l'amante de Nicolas, qu'il s'agit d'un accident, puis d'un suicide, avant de révéler dans le scénario du film qu'il projette de tourner à son retour à Montréal, la manière atroce dont Sylvie aurait péri. Juste du conditionnel, car si cette version semble la bonne, ou en tout cas du moins la plus plausible, un coefficient d'incertitude ne cesse de l'affecter dans le texte. On ne peut pas prendre ça au premier degré. Cette version des faits est d'abord suggérée à Eva par Michel Lewandowski. C'est lui le premier à dire que ce serait beaucoup mieux, ça serait plus efficace au niveau du scénario si elle était morte plutôt que, qu'elle s'était suicidée. La mort de Sylvie, qui, comme on le sait, va se révéler par la suite être son père. Avant d'être corroborée par Nicolas lui-même qui dit « Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, je devrais faire ça aussi. » Mais cette corroboration est elle-même suspecte puisque Nicolas en parle d'abord comme d'un bon procédé filmique auquel il n'avait pas pensé, avant de laisser entendre que c'est bien la façon dont est morte sa femme au cours de leur voyage de noces funèbres. Je vais revenir sur ce flottement dans le texte, mais pour le moment, je me contente de souligner que c'est bien sur fond d'inceste, bien plutôt que d'adultère, que prend forme dans la tête de Nicolas, puis dans un acting out inattendu, le supplice de Sylvie. Autrement dit, s'il va pas seulement la tuer, mais la tuer d'une façon horrible, c'est pas parce qu'elle est adultère, mais parce qu'elle est incestueuse. La scène intervient vers la fin du roman, mais elle ne représente pas, contrairement à Bataille, l'apogée du récit dialogué d'Aquin, qui se poursuit bien au-delà de cette scène. Dans la scène du coït lesbien, on en a parlé entre Eva et Linda Noble, le double de Sylvie dans le film de Nicolas, et celle du narrateur, commentateur du film, qui pour la première fois dit « je » en jetant son masque à la toute fin, bien qu'elle en constitue, au sens vieilli du terme, l'acmé. Ce n'est pas l'apothéose, l'apogée, c'est plutôt l'acmé, à savoir la phase d'une maladie où les symptômes morbides sont au plus haut point d'intensité. C'est le sens du mot acmé, au sens vieilli. Dans la version finale, je voudrais mettre ça en guillemets parce qu'on ne sait même pas si c'est la version finale, dans la version finale du scénario de Nicolas, le corps de Sylvie est profané, plus qu'il n'est torturé par son mari, qui ne lui reproche pas tant son adultère, qu'il a d'ailleurs un bon pervers pardonné d'avance, hein, il le dit, ça c'est pas grave, que l'inceste commis avec le père idéalisé auquel le fils ne peut se mesurer. Ça, c'est important. Après avoir procédé à l'excision du clitoris de Sylvie, le texte dit introcision, mais c'est bien du phallus de Sylvie dont il s'agit, c'est-à-dire de l'organe de sa jouissance coupable à elle, il trace avec une minutie chirurgicale des figures hiéroglyphiques sur le corps de sa victime, lui dessinant un masque grotesque et pathétique qui rappelle l'homme qui rit de Victor Hugo, entre autres, avant de sucer les plaies qu'il lui a infligées et de lui enfoncer brusquement la lame de son couteau sous le sein gauche. Cette profanation du corps de l'épouse, qui rappelle le sacrilège commis dans l'église sur la personne du prêtre par ceux Edmond et Simone à la fin de l'histoire de l'œil, assimile Sylvie au Christ, ça on l'a déjà encore dit, Nicolas communie à même son corps ensanglanté. Il faut toutefois noter au moins deux éléments qui distinguent les deux scènes. Dans le roman Quinien, la scène impossible est étroitement liée au tabou de l'inceste. Il faudra attendre la mère de Bataille pour que ce dernier aborde cette problématique de front. Dans Histoire de l'œil, le sacrilège concerne le couple pervers, pour reprendre l'expression du psychanalyste Jean Clavreul, formé par Simone et le narrateur, mais avec la complicité du libertin sur Edmond, en tiers non pas exclu, mais inclus dans le fantasme. Dans Neige noire, le tiers est absent. Tout se passe, du moins en apparence, entre Sylvie et Nicolas. Il y a quand même toujours un regard, hein, pour qu'en surplomb, il faudrait se demander d'où vient ce regard. Or, c'est Sylvie qui est dépeinte comme perverse aux yeux de Nicolas, puisqu'elle seule enfreint la loi, à savoir l'interdit de l'inceste. Au nom de cette même loi, c'est-à-dire du père mort, en référence à Totem et Tabou de Freud, et je sais que Mona, toi, tu as travaillé cette dimension dans le repas totémique, le fils accomplit sa vengeance légitime. De son point de vue, c'est tout à fait légitime ce qu'il fait là. Bien qu'il soit impuissant à en jouir. Et ça, c'est la position même du pervers. Le pervers reconnaît la différence des sexes, mais il est incapable d'en jouir. Ce qui le place à son tour dans la position du pervers. C'est d'ailleurs sur ce point que le texte d'Aquin converge de nouveau, je dirais, avec celui de Bataille. En suppliciant Sylvie, le commentaire qui accompagne la scène du scénario prend la peine de préciser que Nicolas est manifestement assombri Il pleure lui aussi, de concert avec sa victime, tout comme devant le spectacle immonde de l'œil bleu pâle de Marcel pleurant ses larmes d'urine dans la vulve velue de Simone. Le narrateur note que cette vision avait un caractère de tristesse douloureuse. Vous vous souvenez? Il ne s'agit pas ici de sadisme, du moins au sens sadien et non sadique du terme, puisque chez Sade, on le sait, le libertin ne pleure jamais. Il ne s'émeut pas. C'est la victime qui pleure et en pleurant qui aggrave son cas aux yeux de son bourreau et précipite son malheur. Ça, c'est une grande différence, je pense, là, classe, vraiment claire, entre Sade, Bataille et Aquin. L'autre trait distinctif dont j'ai omis de parler jusqu'à présent concerne la place qu'occupe la scène impossible dans les deux textes. Sans doute, le dispositif même des textes, d'un côté un texte narratif et descriptif, celui de Bataille, et de l'autre un roman-scénario qui englobe un autre scénario commenté, prédisposait à un traitement différent des deux scènes. Mais seul, il n'explique pas la place bien particulière qu'occupe la scène dans Neige Noire par rapport à celle d'Histoire de l'œil. Si elle est à la lettre obscène chez Bataille, comme j'ai dit avec le trait d'union, clairement dressée devant le voyeur qui ne peut se dérober à sa vue, et nous, comme lecteurs, on est mis aussi avec lui devant cette scène, elle est dérobée chez Aquin et n'apparaît que dans un hors-scène ou un hors-cadre que le texte semblait vouloir laisser dans l'ombre avant qu'il ne le révèle de manière inattendue et sans doute pour cette raison encore plus surprenante pour le lecteur que ce qu'on lui avait laissé imaginer jusque-là. Moi, dans ma lecture, ma première lecture de Neige Noire, je ne m'attendais plus à voir cette scène surgir. Je pensais tout simplement qu'on aurait su peut-être que c'était une mort, un meurtre, mais sans autre détail. D'autant qu'elle demeure jusqu'à la fin du récit invérifiable, cette scène, puisqu'elle se trouve dans les pages arrachées du scénario de Nicolas, que Michel Lewandowski, le père de Sylvie, avait lu de vive voix à Eva avant de se suicider. Alors, comment se fait-il qu'on retrouve ces pages-là dans le scénario qui surplombe le scénario de Nicolas? En déplaçant la scène cruciale du roman par rapport au moment attendu de sa révélation, soit la fin du roman, à un autre moment et un autre endroit du texte où elle n'est plus attendue par le lecteur, Aquin, et cette fois-ci ce n'est plus Nicolas, c'est vraiment l'auteur derrière le texte, oblige ce dernier, le lecteur, à le visionner au sens cinématographique du terme, à l'examiner contre son gré d'un point de vue technique et à en subir le choc auquel il n'est plus préparé, comme une vraie scène de film insupportable au cinéma. Hein, une scène cruelle qu'on ne veut pas voir, qu'on se cacherait les yeux, mais qu'on est obligé de regarder. In extremis, Aquin s'est révélé, je dirais, plus « pervers », entre guillemets, ou plus « retard » face à son lecteur que Bataille, puisqu'il l'a placé dans la position inconfortable du voyeur pris en flagrant délit de perversion. Il lui tend un piège, en quelque sorte. C'est aussi la façon passante dont Pasolini a traité son public dans le tournage de la scène finale de sa transposition des 120 journées de Sade, Sodome et Gomorre, à l'écran, en retournant in extremis la caméra vers et contre le public. C'est vous, les voyeurs, c'est pas moi. Au final, peut-être qu'Aquin n'a-t-il pas subi l'influence de Bataille, mais en rivalisant avec lui sur le même terrain de la transgression, il a réussi à faire un pas de plus ou mieux de côté, dans la logique implacable qu'est la transgression à la loi. J'irais même jusqu'à dire qu'il en a renversé l'épaule. Si le récit de Bataille est régi par la loi du désir, en conformité avec la logique du fantasme mise à nu par Lacan, le roman d'Aquin répond plutôt au désir de la loi, mais mis à mal par une logique de la perversion. Merci.